Voilà une musique qu'on entend peu d'habitude dans La Tête au Carré, Louise Rambert, qui nous invite au recueillement pour cette une de la science.
Oui Mathieu, parce que c'est une religieuse allemande qui aurait vécu entre le 10e et le 12e siècle et qui fait la une aujourd'hui. Un article qui vient de paraître dans la revue Science Advances lui est consacré. Pourquoi une telle mise à l'honneur, me direz-vous, alors que cette nonne, morte selon les scientifiques entre 45 et 60 ans, n'a a priori vraiment rien de particulier? Eh bien parce que parmi la vingtaine de dépouilles de la nécropole qui a été étudiée par les scientifiques, la sienne est sortie du lot. Un pigment bleu a été retrouvé figé dans le tartre resté sur ses dents, ce qui laisse penser qu'elle aurait pu avoir des activités insoupçonnées pour son époque. Pour en parler, on est avec Philippe Charlier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc médecin légiste et archéoanthropologue et vous êtes aussi directeur de recherche au musée du Quai Branly. Qu'est-ce que les scientifiques cherchaient à savoir en premier lieu en fouillant dans cette nécropole ?
En fait, quand on étudie une nécropole, qu'elle soit ancienne ou récente, on a des squelettes qui sont à disposition et ils permettent de reconstituer l'état de santé des populations du passé. C'est une sorte d'ambassadeur. Donc on doit diagnostiquer le sexe, l'âge au décès et puis aussi toutes les maladies, faire les liens génétiques entre individus. Bref, savoir pourquoi ils sont là, comment ils ont vécu, comment ils sont morts. Donc c'est un examen qui est maintenant systématique.
Alors pourquoi regarder spécifiquement le tartre dentaire des dépouilles ?
Alors pour travailler sur les restes humains anciens, on utilise les techniques de l'anthropologie physique et de la médecine, mais aussi de l'odontologie. Les dents, les vôtres, les miennes, celles des auditeurs, eh bien, à la surface de nos dents, c'est normal, on vient de manger. Là, on ne s'est pas tous brossé les dents, moi notamment.
On va tous avoir.
Et du coup, on a à la surface de nos dents un truc génial qui est la plaque dentaire.
Ou la feuille de salade, parfois, mais bon.
Mais justement, ça fait partie de la plaque dentaire. Donc, des petits débris alimentaires, de la salive, des cellules qui sont desquamées. Et si on ne se brosse toujours pas les dents ce soir, et les jours d'après, eh bien ça va cristalliser au fur et à mesure et devenir ce qu'on appelle le tartre dentaire. Donc vous l'avez compris, tout ce qui est rentré à l'intérieur d'une bouche va cristalliser au fur et à mesure et du coup va être visible par les archéo-anthropologues du futur. Ça permet donc de reconstituer non seulement l'alimentation de l'individu, ses maladies, notamment parasitaires ou bactériennes ou virales, mais également l'activité de l'individu parce qu'on utilise parfois notre bouche comme troisième main.
Et donc, chez cette nonne en particulier dont on parle aujourd'hui, ils ont fait une découverte étrange. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ?
Oui, ce sont des petits cristaux bleuâtres, assez intenses, de lapis lazuli, on appelle ça de la lazurite en termes géologiques, qui ont été retrouvés, non pas sur des résidus de tartre dentaire d'une dent, mais de façon vraiment diffuse à l'intérieur de ce qui restait de la bouche de cette femme, de cette nonne, véritablement. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant, parce que c'est une observation qui est objective, d'abord en microscopie optique, puis électronique à balayage, confirmation ensuite sur le plan cristallographique et élémentaire, donc on est sûr que c'est vraiment du lapis lazuli. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette bouche ? Et c'est là que le travail scientifique de sciences fondamentales vient s'interpénétrer avec les sciences humaines, l'archéologie, la philologie, etc.
Et c'est vraiment la question qui nous intéresse, comment est-ce possible que ce bleu se soit retrouvé sur les dents de cette nonne ? Est-ce qu'il y a des hypothèses qui ont été formulées ?
Alors, quatre hypothèses principales. La première, c'était que c'était une sorte de monial copiste, si on peut dire, c'est-à-dire une femme chargée de transcrire et réécrire des textes, mais également de faire des enluminures. Et auquel cas, eh bien, en mettant son stylet dans la bouche, par exemple, ou au moment d'une projection ou autre, elle aurait pu mettre ces pigments qu'elle utilisait de façon courante à l'intérieur de la bouche et ensuite, ça se cristallise.
C'était courant que les femmes pratiquent cet exercice ou pas ?
C'est pas très connu. On sait que la femme, dans ce contexte du Moyen-Âge, n'a pas du tout cette image d'épinal exclue complètement. Elle participe vraiment de la vie quotidienne. Donc, ça renseigne pas particulièrement les historiens, mais ça éclaire de façon assez iconique. En revanche, trois autres hypothèses très très vite. La première, c'est qu'elle était chargée de préparer les pigments, c'est-à-dire les moudre et les broyer. Et donc là, c'est quelque chose qui se vaporise, qui se volatilise facilement. Donc, quand on a la bouche ouverte parce qu'on a le nez bouché par exemple, eh bien ça vient se fixer à la surface des dents et on a un peu les dents bleues mais surtout le tartre dentaire bleu. Et puis deux autres possibilités, qu'elle ait utilisé ces pigments, le lapis lazuli, comme traitement. Quand on a des vers intestinaux, quand on a des abcès, quand on a des saignements, eh bien les pierres peuvent être utilisées selon une pharmacopée antique qu'on utilisait encore au Moyen-Âge. Et puis il y a une dernière hypothèse que personnellement je trouve la plus belle.
Vous terminez donc par elle, hein, pour que ce soit celle qu'on retienne.
Exactement, c'est rhétorique.
Bravo.
Il s'agit du fait d'embrasser les images saintes. On est dans une communauté ecclésiastique, c'est une pratique qui persiste toujours dans la communauté orthodoxe, grecque ou russe par exemple, d'embrasser les icônes. Eh bien sachez que ça se faisait également dans ces communautés entre le 9e et le 11e siècle, et le fait d'avoir embrassé de façon quasiment systématique, peut-être un peu forcenée, peut-être bigote, eh bien du coup, ça a fini par s'imprimer littéralement dans son propre corps. Je trouve ça d'une poésie magnifique.
Et il n'y a donc aucune de ces hypothèses pour l'instant qui est privilégiée. Tout reste ouvert.
Tout reste ouvert, mais vous avez compris, les scientifiques des sciences fondamentales sont là pour apporter des données qui sont fiables et irrévocables. Charge ensuite aux historiens des sciences humaines, on va dire, d'exploiter ces données brutes. Donc, voilà. À suivre.
À suivre. Et c'est une belle histoire, finalement, qui se révèle avec ce lapis-lazuli, là.
Et vous savez que l'archéologie donne quand même très, très souvent de belles histoires, comme l'anthropologie également, et comme les objets de musée. Cette technique-là, on l'utilise, nous, couramment, au musée du Quai Branly, sur les restes humains.
Donc, on a compris que si on voulait laisser une trace dans l'histoire, il fallait arrêter de se laver les dents dès aujourd'hui.
C'est exactement Charlie, c'est ce que j'avais demandé, Mathieu.
Bon, on va faire des économies de dentifrice. Merci beaucoup à vous pour ces explications. Et puis, Héloïse Rambert, on se retrouvera lundi avec une nouvelle une de la science.
À lundi.